France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous poursuivons notre tour d'horizon des initiatives en Haute-Garonne. Initiatives qui n'avaient pas été encore présentées dans nos carnets, ainsi que des lauréats de la fondation La France s'engage. En Haute-Garonne, c'est une entreprise innovante qui a retenu notre attention. Elle est innovante car elle exploite des matières naturelles recyclées à destination de l'industrie du luxe. Et donc une autre lauréate de la dernière session des prix de la fondation La France s'engage, le Cercle FSER, qui multiplie les solutions de transfert des connaissances scientifiques auprès du grand public, à commencer par les lycéens.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Noémie Duménil, bonjour.
Bonjour.
Noémie, vous venez nous présenter une société fondée à Toulouse en 2016 qui est un petit peu particulière, qui a ouvert l'année dernière une succursale en Suisse. Alors si je résume, c'est une société qui travaille sur de nouvelles technologies et qui essaie de transformer des matériaux naturels, qu'ils soient d'origine végétale ou animale, en support de création pour les industries et les fabricants du luxe.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors concrètement, alors, si je le dis avec les termes pas forcément très marketing, mais probablement beaucoup plus clair.
Et je préfère, je veux le dire.
Notre métier, c'est de collecter ce qu'on va appeler vulgairement les déchets de matières naturelles issues des industriels du luxe, hein, la maroquinerie, prêt-à-porter ou beauté, de récupérer ces déchets ou coproduits, pour être dire plus joliment, et de les transformer en un nouveau matériau que ce même client, enfin ce fournisseur de matières, va pouvoir réutiliser lui-même dans sa production. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être en économie circulaire, en boucle totalement fermée, ce qui fait que nous, on travaille vraiment sur mesure et à la commande.
Oui. Vous avez réveillé cette conscience écologique auprès des designers, des concepteurs de l'industrie du luxe ?
Je n'aurais pas encore cette prétention. Quand on s'est créé, c'est vrai que c'était un sujet qui était bien lointain. Il y avait un petit réveil avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a accéléré sans faire de politique du tout, hein, mais en tout cas, on a quand même senti un changement. En toute honnêteté, ceux qui sont les plus durs à faire adhérer pour l'instant, c'est peut-être justement le designer en tant que tel, toute l'équipe autour, qualité produit, environnement, chargé de produits ou marketing, pour lesquels c'est une manière de réfléchir qui peut être un peu différente, parce qu'on peut plutôt contraindre de dire on va partir de la matière, du coup, pour créer, et on va pas créer, et ensuite penser à la matière.
Puis normalement, le luxe est synonyme d'exception et d'exceptionnel. Travailler sur une économie circulaire, c'est banal.
Bah oui et non, parce que nous, on a deux grandes gammes de matériaux, dont une, justement, qui est très haut de gamme, qui va se rapprocher des matériaux nobles, des bois extrêmement nobles, etc., où là, on va retrouver, par exemple, si on parle, nous, notre plus gros business, c'est vraiment le cuir, hein, puisque le cuir étant tanné, est imputrescible par définition. Donc, c'est un gros sujet de recyclage dans l'industrie. Mmh. Et à partir de ces matériaux-là, nous, on arrive à refaire, aussi de manière un peu caricaturale, des briques de cuir de taille, de poids divers. On peut usiner pour faire des matériaux et des pièces vraiment d'exception. Et on a une autre gamme qui est un peu plus bas de gamme, qui est plus sur du process industriel, qui va être là pour remplacer aujourd'hui tout ce qui est fait en plastique dans des produits même de luxe.
Alors, vous disiez avec Authentic Material, vous avez inventé un process qui permet, par exemple, sur le cuir, de recréer des briques sur lesquelles on peut travailler à nouveau. C'est un process particulier.
Nous, on est basé à Toulouse et une des technologies qu'on utilise, c'est un dérivé de l'aéronautique, hein, puisque Toulouse, c'est surtout ça comme industrie à la base. Mais nous, les compétences qu'on a en interne, c'est en effet des compétences de chimie issues de l'agro-industrie, essentiellement, puisqu'on va travailler les matériaux naturels. Donc, on travaille dans un écosystème toulousain très bouillonnant, si je puis dire. Oui. On a une stratégie de propriété industrielle assez forte. Mais en fait, on a un dénominateur commun que sur tous les matériaux d'origine végétale et animale, et aussi minérale. Minérale est une famille un petit peu différente encore. Donc, pour nous, on a des dénominateurs communs d'un point de vue physico-chimique qu'ensuite, on va décliner en fonction de la matière plus précisément, et aussi si on parle des cuirs, du type de tannage, etc. Donc voilà, c'est une expertise globale qu'on décline.
Et donc aujourd'hui, vous vous ouvrez à l'extérieur avec, donc je disais, une succursale en Suisse.
Oui, on a ouvert une succursale en Suisse pour le marché de l'horlogerie et de la joaillerie. L'horlogerie, déjà parce qu'il y a aussi du cuir, c'est un petit peu le sujet. L'horlogerie, donc vous l'aurez compris, c'est mode maroquinerie, notre premier marché. L'horlogerie, joaillerie, on essaye plus sur les déchets de matière minérale. Donc là, on travaille sur des choses comme de la porcelaine, des coquillages. On a commencé à travailler sur de la pierre semi-précieuse. Voilà, ce sont d'autres ressources, je dirais, inexploitées à très très forte valeur ajoutée. Mais on s'installait là-bas parce que c'est vrai que déjà avec le Covid, etc., on a fait moins de déplacements. Et puis c'est quand même un cercle très fermé, l'horlogerie et joaillerie. Donc il faut être sur place, connaître les codes. Ouais. C'est un milieu très très exigeant, qui a beaucoup de recherches d'inédits. Pour nous, c'est un marché, en tout cas, nous connaissons moins bien pour le moment et on est en train d'explorer.
C'est l'avenir d'une industrie qui va relever le défi de l'avenir et de la transition avec une économie circulaire injectée dans cette industrie du luxe et à travers les exemples de maroquinerie et d'horlogerie dont vous venez de nous parler, Noémie. Le site, c'est authentique-dunionmatériel.com ou .fr. Il y a deux adresses. Merci, Noémie.
Merci beaucoup à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Et on continue, recycler, revaloriser, limiter la consommation, rendre plus accessible ce qui ne l'était pas. Les mots d'ordre qui conditionnent aujourd'hui les créations, comme on vient de l'entendre, d'activités locales ou nationales et qui permettent aussi de créer des emplois ne manquent pas. Encore une illustration avec Atri, A-T-R-I. Caroline, correspondante des carnets, a créé une friperie en ligne avec deux de ses amis. Les jeunes Toulousains sont installés à Albi depuis le premier confinement en 2020. Et si les conditions de déplacement limitées ont joué un rôle dans la construction de l'entreprise, c'est d'abord une prise de position contre la pollution engendrée par l'industrie textile et un engagement en faveur de l'économie circulaire à nouveau qui ont décidé les trois entrepreneurs à passer à l'action. Alors, en quoi Atri est-elle de nouvelle génération ? Réponse, elle vend en ligne, mais elle achète aussi les vêtements des particuliers. Pour ce faire, il vous faut ouvrir un compte sur la plateforme afin de télécharger un bordereau d'envoi avant de le déposer en point mondial relais. Une fois le colis traité, vous recevrez votre gain, soit sur votre compte bancaire, soit sur votre compte de la friperie, si vous en avez ouvert un. Enfin, obligatoirement, vous devez le faire. Autre solution encore, vous pouvez attribuer ce gain à une association partenaire. Évidemment, Atri émet des conditions sur la qualité des articles qui ne doivent pas excéder les 5 ans et qui doivent être en très bon état, évidemment. Si une étiquette manque à un de ces articles, la friperie propose un estimateur qui calculera le prix du vêtement de marque. C'est globalement ingénieux, c'est très bien pensé. Le site, c'est Atri, donc A-T-R-I.fr. Bonjour Héloïse Dufour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour et bravo, puisque vous êtes cette semaine notre deuxième lauréate pour cette année de la Fondation La France s'engage. Vous êtes directrice des opérations au cercle de la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche. Donc, précisons, Schlumberger, ce sont pas la grande entreprise, c'est un membre de la famille qui a fait don de son patrimoine à cette fondation. C'est pas une entreprise nécessairement très riche, mais elle va peut-être nous enrichir, nous, pour nous mettre en contact avec la recherche aujourd'hui en sciences, neurosciences. Vous avez travaillé en neurobiologie aux États-Unis avant de revenir en France après des études en biologie à l'ENS de Lyon. Et vous dites, Héloïse, que la recherche fondamentale est encore très méconnue, bien sûr du grand public, mais également des décideurs.
Tout à fait. Et c'est ce fait que la recherche, sa temporalité, le fait que les choses prennent du temps, l'importance de la recherche fondamentale pour la recherche appliquée, le fait que ça soit mal connu, c'est ce qui a amené en fait les chercheuses et les chercheurs qui étaient lauréats et lauréates de cette fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche à s'unifier pour monter une association l'association, le Cercle FSER, pour mieux faire connaître la recherche et aussi conceptuellement les outils intellectuels qu'on utilise dans la recherche et qui sont très importants pour développer l'esprit critique. Mmh. Et donc aujourd'hui, le Cercle FSER, c'est une association qui a pour vocation de rapprocher science et société, et nous travaillons sur deux axes principalement. Le premier, c'est de toucher un public plutôt jeune. La majorité de notre public est un public lycéen. Et le deuxième axe, c'est vraiment de favoriser l'implication des chercheurs et des chercheuses dans justement un dialogue constructif avec le grand public, puisque en France, les chercheurs et les chercheuses sont moins engagés dans ce dialogue que chez certains de nos voisins.
Mais il y a un tel fossé de connaissances, de compétences entre les deux, entre les chercheurs et le grand public. Comment rassembler ces deux extrêmes ?
C'est effectivement très compliqué puisque la plupart du temps, les chercheurs et les chercheuses ne sont pas forcément formés à expliquer leur métier, comment se déroule la recherche. Et du coup, j'en profite pour souligner l'importance des médiateurs et des médiatrices scientifiques. Mmh. Nous, on a fait le choix d'essayer en fait de rassembler d'une part les membres du public et d'autre part les chercheurs et les chercheuses dans un dispositif qui leur permette un véritable échange et que ça soit pas en fait juste des conférences descendantes où on prendrait le risque que justement les chercheurs et les chercheuses soient mal compris.
Comment instaurer cet échange ?
Par exemple, on développe le programme Déclic, qui est l'acronyme de dialogue entre chercheurs et lycéens pour les intéresser à la construction des savoirs. C'est un dispositif qui permet sur une demi-journée à des personnels de recherche de se déplacer dans les lycées pour échanger le cœur du programme, c'est vraiment 1h30 de ce qu'on appelle le spin meeting, c'est-à-dire qu'on va avoir un chercheur ou une chercheuse avec en face 4 à 6 élèves, donc on est vraiment en tout petit groupe. Ils échangent et ils dialoguent pendant une dizaine de minutes, la cloche sonne, le chercheur ou la chercheuse change de table, et comme ça 7 fois d'affilée.
Bon, mais c'est quel type de recherche ? Parce qu'il y a peut-être des secteurs qui captivent davantage l'auditoire des lycéens.
Alors, ce sont des rencontres qui sont ouvertes à vraiment tous les types de sciences, aussi bien les sciences qu'on appelle les sciences dures que les sciences humaines et sociales, parce que malgré la diversité des sujets, on a quand même des choses communes en termes de démarche scientifique, de qu'est-ce que c'est s'appuyer sur des sources, comment est-ce qu'on développe une question de recherche. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de biologistes qui participent, mais on a aussi des sociologues, des économistes. Et j'en profite pour préciser que donc on a commencé à développer ça en présentiel, vraiment dans les lycées. Mais comme notre objectif, c'est que ça puisse bénéficier vraiment au plus grand nombre et à tous les lycées de France et de Navarre, on a aussi développé le dispositif en distanciel.
Et donc, vous avez créé un autre axe qui s'appelle le comptoir des sciences.
Tout à fait. Alors, le comptoir des sciences, c'est pour faciliter, encore une fois, cette rencontre entre personnel de recherche et grand public. Et donc, le comptoir des sciences, l'idée est très simple, c'est de pouvoir mettre en relation les personnes qui souhaitent dialoguer avec des chercheuses ou des chercheurs. De l'autre côté, nous, on a des chercheurs et des chercheuses qui s'inscrivent. Et ensuite, notre travail, ça va être vraiment de mettre en relation les demandes et les offres qu'il y a, et on les met en relation pour une visioconférence d'une heure, encore une fois, sur le modèle de l'échange et du dialogue.
comptoirdessciences.org, le site du Cercle FSER, c'est cerclefser.org, et paraît-il que par l'opération Déclic, il y a déjà des vocations qui sont nées chez les lycéens en recherche et en sciences. Peut-être qu'on a de futurs chercheurs grâce à vous, et de toute façon, c'est ce qui est porté par la fondation qui vous a primé. L'idée, c'est de développer de plus en plus cette action et ces actions auprès du grand public. Merci Héloïse.
Merci beaucoup Philippe, et merci beaucoup pour votre émission qui est toujours pleine de témoignages très enrichissants et inspirants.
Allez, encore une jeune entreprise, à nouveau une adepte de l'économie circulaire. Elle est à Toulouse, elle s'appelle Consigne Up. Elle s'adresse aux professionnels, aux producteurs, aux distributeurs de boissons en bouteilles en verre. Consigne Up collecte, lave et vend des bouteilles propres en Haute-Garonne. 10 emplois sont à créer en perspective de l'ouverture d'un outil de lavage industriel. Quant au verre, il n'y a pas photo. Son recyclage nécessite une fonte à 1500 degrés Celsius pendant 24 heures. Le réemploi ne demande qu'un lavage à 80 degrés pendant 20 minutes, soit une économie de 33% d'eau, de 79% de CO2 émis et de 76% d'énergie écologie consommée. Consigne App a un statut associatif et entre dans une économie sociale et solidaire. Consigne App.org.